Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable à Capitale-Nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale. Député fédéral de Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Et le ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos.
Bienvenue aux 50 ans de CKRL. Une série d'entretiens avec les pionniers de la première radio francophone au Québec.
Denis, on n'en avait pas encore parlé de la place de l'humour à CKRL. Évidemment, nos animateurs et animatrices ont tous leur touche d'humour dans leur émission, mais de là à faire des émissions 100% humoristiques, est-ce que c'est arrivé à CKRL dans son histoire?
Oui, c'est arrivé avec une émission autour de Liliane Recré, entre autres, et de Noël Beaupré, durant 3-4 ans, de 76-17 jusqu'à 79-80 peut-être.
Une émission nommée Les mauvais instincts, j'ai
entendu. Les mauvais instincts.
Ouais. Et après ça...
Ça a été assez difficile de trouver quelqu'un. C'est beaucoup de travail. Il faut écrire et préparer les sketchs comme au théâtre, même s'il y a une part d'improvisation et de spontanéité.
Et vient un nom qu'on cite souvent à CKRL quand les gens ne connaissent pas CKRL et qu'on nous demande « Mais qui est passé par chez vous là? Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu qui est passé là ?» Et le nom de François Pérusse revient assez souvent au-delà de l'humoriste qu'il est devenu. C'est une carrière qui commence très très tôt à la radio. Il a à peine 16 ans quand il arrive à l'automne 1976, Denis. Est-ce que tu le remarques déjà là quand il fait son arrivée? Parce qu'il est juste... metteur en onde à ce moment-là.
Oui,
pas des moindres.
Metteur en onde, puis pour l'émission de jazz animée par Jean-Pascal Souk et moi-même le vendredi soir. Mmh. Et donc, on se lie d'amitié assez rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que François restera à CKRL durant une très longue période, toujours de la fidélité. Alors, ça nous amène à parler, parce que ça a d'abord été quelqu'un qui aimait la musique, qui avait des émissions d'animation musicale à son nom par la suite, mais le type d'intervention, c'était teinté de l'humour déjà que l'on connaît par la suite. Alors, ça peut, avec lui, on va se demander justement quel a été l'impact de CKRL sur sa carrière future, quelle est l'importance, le rôle, la fonction de ce réseau de radio alternative et communautaire, et puis de la place éventuelle de l'humour à la radio.
On est très heureux aujourd'hui pour la série 50 ans de CKRL de recevoir François Pérusse.
Bienvenue aux 50 ans de CKRL, une série d'entretiens avec les pionniers de la première radio francophone au Québec.
Bienvenue dans 50 ans de CKRL, Jessica Leb, ravie de vous retrouver avec mon acolyte, mon complice depuis presque 40 émissions. Maintenant, on approche tranquillement de la fin. Denis Lelièvre, bonjour Denis.
Bonjour Jessica.
Et la mémoire est toujours aussi vive depuis le début de ces célébrations.
Fais des exercices pour ça tous les matins.
Et on t'entraîne aussi avec l'émission, Denis. Je sais que tu es très heureux de retrouver François Pérusse parce que, comme tu l'as dit en introduction, ça a été ton metteur en onde. Ça doit faire drôle de dire ça aujourd'hui, non?
Oui, et quand on lui cédera la parole, il va préciser. C'est qu'il y en a beaucoup, un certain nombre, 3 ou 4 metteurs en onde, dont on a l'impression qu'ils ont fait 3 ans, là, de 77 à 80. Je pense entre autres à Daniel Roy, à Jean Séguin, il y en aurait d'autres. Mais François, il me semble qu'il a véritablement fait 3 ans avec nous deux.
On va l'accueillir directement. Donc, bonjour François Pérusse.
Comment allez-vous?
On est très heureux
bien.
De t'avoir avec nous. Merci
et
beaucoup.
Et moi non, je suis tellement content de retrouver Denis et de vous rencontrer, Jessica.
Grand plaisir partagé. François, on en aura beaucoup à dire, on le sait, en 27 minutes que nous réserve cette émission. Je le disais, t'es arrivé à CKRL à l'automne 1976, tu avais 16 ans. Est-ce que t'écoutais déjà CKRL depuis le premier jour en onde en 1973?
Absolument. Peut-être pas le premier jour, mais oui, j'écoutais CKRL, puis j'ai découvert beaucoup de musique que je ne connaissais pas via CKRL avant d'y être. Et comme CKRL a commencé, j'avais 13-14 ans, j'y entendais des choses que j'adorais, que je découvrais, que je connaissais pas, qui jouaient pas ailleurs. Je trouvais que la musicalité de cette radio-là était excellente, et je découvrais que beaucoup de gens l'écoutaient. Mmh.
Qu'est-ce qui t'a attiré vers... après, l'idée de l'écouter, c'est une chose, mais après de se dire, OK, je vais peut-être essayer de m'impliquer là-bas.
Ben moi, en réalité, j'avais pas la prétention de pouvoir y aller. C'est que c'est par la connaissance de quelqu'un que j'ai réussi à intégrer la boîte. Il y a quelqu'un que je connaissais qui travaillait à la direction technique, qui était un ami de mon frère. Et puis c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer la boîte, parce que CKRL cherchait des techniciens à la mise en onde. Et puis, ils m'ont donné la chance de tenter ma chance là-dedans. Alors, c'est comme ça que je suis entré. Alors, par la porte de derrière, on pourrait dire.
Quelle humilité! Enfin, c'est des ingénieurs du son.
Des ingénieurs, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça.
Oui, bon, parfait.
Vous savez que dans le temps des Beatles, les ingénieurs du son portaient des sarraux blancs.
Ah non?
Ah oui?
Oui, c'est dans les studios en Angleterre, un ingénieur avait un sarrau.
Pour couper les bobines, ça demande beaucoup de dextérité, par exemple, comme un chirurgien, finalement.
Bien sûr.
Exactement.
Et François, avais-tu quand même des affinités pour la technique? Parce que, bon, après, une fois qu'on maîtrise la console, on se rend compte que c'est pas si impressionnant que ça, mais quand même, je sais que ça en intimide plusieurs.
Ben, on était avec, évidemment, les bandes magnétiques et les albums vinyles. Mmh. Et moi, je rêvais de faire de la radio, mais j'avais jamais pensé au côté technique. Et quand je suis arrivé à la station, j'ai vu les tables tournantes et la console et tout. Moi, j'étais au paradis parce que j'ai toujours adoré ces choses-là. Et c'est là que j'ai appris les débuts de la technique de diffusion. C'est à CKRL que j'ai appris ça. Comment diffuser des platines vinyles, puis comment mettre en onde des bandes magnétiques et mettre en onde aussi, bien sûr, les animateurs qui étaient de l'autre bord de la vitre, puis tout ça, puis de faire de la diffusion radio. J'ai tout appris ça à CKRL, c'était mon école.
Est-ce que ça a été difficile de s'imposer si jeune? Je ne sais pas quelle était la moyenne d'âge à ce moment-là parmi les animateurs, mais tu devais clairement être l'un des plus jeunes à 16 ans.
J'étais le plus jeune et j'étais très pressé de parler dans le micro. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait René Vézina, qui est aujourd'hui rédacteur en chef de la revue Les Affaires, qui était directeur des programmes, qui était directeur général à ce moment-là. Et c'était Jacques Auger, l'ancien directeur de Radio-Canada, qui était directeur des programmes. Et il voyait que j'avais tellement hâte d'animer une émission. J'en étais fatigant. Puis même, j'avais aucune expérience. J'avoue que j'étais pas bien bon. Puis ils m'ont donné une émission de nuit qui était tout de suite après le jazz de Denis.
Ah oui.
Et puis j'étais aux petits oiseaux. Je faisais mon émission de nuit. J'avais quelques auditeurs quand même. J'ai commencé la nuit au microphone, puis ils m'ont jamais mis à la porte.
Donc c'était plutôt bon signe. Parce que
oui,
ça se faisait
bon
quand
signe.
Même à l'époque.
Et là, je faisais mes erreurs. J'enregistrais mes émissions, puis là, je voyais toutes mes erreurs et tout. Et vous parlez d'humour. Mes débuts à CKRL ont été mon inspiration pour le premier personnage humoristique que j'ai fait dès mon premier album et mes premières apparitions radio commerciales, le gars de la radio communautaire.
Mais oui.
D'une station que j'ai appelée CD Cassé. Ce gars-là, est mon personnage favori, je le fais encore aujourd'hui pour la radio. Il est encore sur mes albums aujourd'hui.
Oui.
Et ce gars-là, c'est tout simplement moi dans mes erreurs.
Donc, c'est des erreurs qui ont vraiment eu lieu.
Mais il y a aussi des accidents, comme par exemple le bris d'une chaise, d'un meuble ou de la neige qui entre par un soupirail que le gars du soir a oublié de fermer. Ça, c'est tout le contexte. C'est extraordinaire.
Oui, ça s'est vraiment passé, tout ce que tu dis, Denis. je suis arrivé un matin, il y avait une tempête de neige, une fenêtre soupirail, comme tu dis, c'était ouverte accidentellement et il y avait 4 pouces de neige sur les tables tournantes.
Non.
Et puis, j'ai déblayé. Alors, évidemment, là, j'ai pas pu commencer la mise en onde à 7 heures le matin parce que là, tout était gelé. C'était formidable, vraiment. J'aime ça raconter ça encore aujourd'hui.
Ben oui.
Et puis, la porte était verrouillée à CKRL. Il fallait mettre une espèce de cendrier dans la porte quand on allait aux toilettes qui étaient dans le couloir du pavillon de Coninck de l'Université Laval pour ne pas s'embarrer dans la station parce qu'on n'avait pas toute la clé. Surtout en pleine nuit, j'étais seul. Et ça m'est arrivé une couple de fois de m'embarrer en dehors de la station et qu'il n'y avait plus personne pour animer l'émission et le disque en vinyle jouait jusqu'au bout, puis c'était l'étiquette qui jouait, puis plus personne qui parlait.
Oui, donc pas longtemps finalement, et donc ça se retrouvait hors d'onde. Et comment tu t'en sortais? On venait te chercher?
Il y avait un gardien de sécurité un peu grincheux qui était à l'époque. Il fallait aller le chercher sur sa chaise, le réveiller de son sommeil et lui demander de venir débarrer à la porte. Il détestait ça. C'est arrivé une couple de fois. Alors évidemment, tout ça faisait que les bons, j'arrivais, puis les trois lignes, c'est la preuve que les gens écoutaient. Les trois lignes sonnaient pour dire qu'est-ce qui se passe.
Ah oui, hein.
Là, j'arrivais, je prenais le micro, je dis, ben alors voilà, je me suis embarré en dehors de la porte, en fait, en allant aux toilettes, et voilà. Voilà donc, on a entendu Miles Davis.
Comme si de rien n'était. Allez, on recommence.
C'est ça.
Excellent. Mais ça, c'est une anecdote que tu as racontée souvent, François. Moi, j'ai une archive de 1994 parce que tu as continué à t'impliquer au Radioton quand même. On parle que tu es resté 12 ans à CKRL, mais après, oui, tu revenais quand même ponctuellement.
Oui.
Pour des,
oui, on m'invitait, mais j'étais très, très heureux d'être invité. Puis quand le temps me le permettait, on m'invitait de retourner à Québec pour participer à une émission de Radioton. Et puis j'ai toujours été charmé de ça, parce que moi, c'est KRL, j'en fais des rêves récurrents. Je veux dire, j'ai quand même été 12 ans là, puis je rêve que j'y retourne. puis que j'oublie mes disques. Tu sais, dans un rêve, il y a toujours la portion de stress.
Oui.
Je rêve que j'y retourne, mais que j'arrive à la station, j'ai oublié mes disques à la maison.
Ben, c'est un peu normal, parce qu'il n'y a plus de disques.
Il n'y en a plus! Alors aujourd'hui, c'est ça, évidemment, tout est diffusé par ordinateur. Ben, à ce moment-là, on était tous à bras. J'aimais bien ça.
Ça serait un peu moins grave aujourd'hui, c'est clair. Et si tu devais... imaginons, là, je sors ça de même, tu revenais, voilà, à partir de 2024, animer une émission ponctuellement pour un petit plaisir à CKRL, ce serait quoi, ton petit plaisir coupable?
Ce serait culture générale, parce que je dois dire avec fierté que c'est grâce à CKRL, et grâce à Denis. Denis, il faut que j'y donne, j'y ai dit d'ailleurs, là, quand je l'ai rencontré l'an dernier à Québec. Denis m'a fait découvrir des facettes du jazz que je connaissais pas, et même d'autres styles de musique que j'ai gardé précieusement dans mon esprit et qui m'ont ouvert la porte à m'intéresser à beaucoup de styles musicaux. Ça part de CKRL, ça. Cette culture musicale que j'ai, ça part beaucoup de CKRL. Et j'ai transmis ça à mes fils. Et puis, mes deux gars ont une culture générale. Ils peuvent autant écouter Plume que Kendrick Lamar, que Charles Aznavour, que du jazz, que justement, les grands noms du jazz et les moins connus. Ils ont une culture générale. Alors, si je retournais à la radio, c'est clair que je toucherais absolument à tout. De la chanson jusqu'à l'électroacoustique.
Ah oui, c'est aussi large que ça. Ben, parle-nous un petit peu de cette expérience avec Denis, parce que je pense que c'est quelque chose qui est ressorti dans toutes les entrevues qu'on a faites. C'est que, évidemment, en venant à la radio, parfois on est solitaire, on est dans sa bulle à faire son émission tout seul, mais on fait aussi des rencontres avec des échanges de mélomanes, entre deux portes, là, entre deux émissions, on se donne quelques petits coups de cœur. Toi, comment ça s'est passé quand tu faisais la mise en onde de Denis et Jean-Pascal Souk?
Ben là, j'étais une véritable éponge de tout ce que j'entendais dire par Jean-Pascal et Denis, parce que il était assez rare qu'ils mettent la même pièce musicale. Je découvrais toujours un nouvel artiste, dont le pianiste catalan aveugle Tété Montolio, que Denis m'a fait découvrir par un album qui s'appelait Songs for Love. C'est du piano solo, puis je suis tombé en bas de ma chaise, littéralement, parce que ça m'arrivait souvent, en écoutant ce pianiste-là. C'est Denis qui m'avait fait découvrir ça. C'était des albums importés du Danemark ou de l'Allemagne, ou je ne sais plus trop. Puis j'écoutais ça, puis tout ce que j'apprenais avec Jean-Pascal puis Denis, ça m'a rendu un maniaque du jazz au point d'en être fatiguant avec mes amis. J'écoutais rien d'autre. Puis tout le monde me disait, hey, toi et ton jazz. Puis, évidemment, j'ai ouvert mes horizons, je me suis intéressé aux autres sortes de musique, mais en rencontrant, je disais que c'est les personnes que j'ai rencontrées à CKRL, Denis et Jean-Pascal, qui m'ont le plus ouvert les yeux sur ce qui se passe, et les oreilles, bien sûr, sur ce qui se passe dans le monde musicalement. Et je leur en serai éternellement reconnaissant.
Alors donc, à partir de quel moment t'as intégré peut-être davantage, je sais pas, de traits humoristiques au fil des ans? En même temps, bon, tu travaillais dans une boutique de la rue Saint-Jean.
Oui.
tu jouais de la basse, oui, électrique, tu pouvais réparer de la basse électrique, mais rien ne préfigurait la carrière que l'on sait. Mais dans quelle mesure ça paraissait sur les ondes de CKRL, ce cheminement-là, le fait de bidouiller là, avec de la technique et de l'humour, les deux, quoi?
Ben, j'ai toujours été intéressé par l'enregistrement musical qui consiste à faire piste par-dessus piste et finalement d'être seul pour jouer tout son orchestre grâce aux multipistes. Ça, j'ai toujours rêvé de ça. Et quand j'étais encore à CKRL, j'utilisais deux ou trois magnétophones pour essayer de le faire tant bien que mal avant que les appareils abordables existent. Et puis, j'ai commencé à faire des niaiseries là-dessus. Alors, nous, c'est là que l'humour est arrivé. C'est que je faisais écouter ma musique et mes paroles et mes chansons à des gens. J'étais encore à CKRL à l'époque. Mm-hmm. Et puis, les gens écoutaient ça. Ils disaient, ta musique est bonne, mais tes paroles sont bizarres. Puis, à un moment donné, en écoutant mes affaires, je faisais ça dans mon petit 2,5 à Québec, là, sur une petite console. Puis, à un moment donné, je me suis fâché. Je dis, OK, mes paroles sont bizarres, mais je vais chanter des conneries. Et j'ai pris toutes les paroles que j'ai enregistrées sur 4 ou 5 chansons, j'ai remplacé ça par n'importe quelle niaiserie que je chantais. Tu sais,
oui.
Et j'ai fait réécouter ça à des gens qui ont dit, là, t'as trouvé ta voix. Et les gens disaient, t'es mieux d'être drôle que d'essayer d'être sérieux. Et puis, ça s'est passé durant la période de CKRL. On était,
bien sûr.
On était dans les années 80. Puis j'ai été bien encouragé par des gens à CKRL de dire, ben, exploite ça. Puis j'ai commencé à faire des sketchs en multipiste. J'en ai diffusé à CKRL de ces sketchs-là.
Mm.
Et des gens appelaient, disaient, coudon, fais quelque chose avec ça.
Oui.
Puis j'ai même frappé à la porte de Radio-Canada puis de Radio Commerciale à Québec. Puis on m'a viré de bord. Ça impressionnait personne que ce que je faisais.
T'étais en avance sur ton temps.
Peut-être que, peut-être que c'était trop weird, mais l'humour est venu de là, puis c'est de fil en aiguille, des gens ont entendu mes niaiseries et savaient que j'étais un gars de radio communautaire, savaient que j'étais un gars de CKRL, en fait, uniquement de CKRL, c'est la seule radio communautaire que j'ai faite dans ma vie.
Oui.
Puis les gens savaient ça, puis c'est venu à l'oreille de certains musiciens très établis au Québec, comme Uzeb.
Ah bon?
Des humoristes à l'époque comme Pierre Verville.
Oui.
Et puis, je me souviens, Geneviève Paris.
Oui.
À un moment donné, Luc de la Rochelière, Jean Leloup savait que j'ai travaillé. Il s'appelait Jean Leclerc à l'époque. Bon, j'étais encore à CKRL quand je travaillais avec Jean en duo. On faisait des bars. J'étais en duo, mais des fois, on vidait les salles. C'était weird, notre show un peu. Mais. L'humour a toujours. On m'a toujours vu comme quelqu'un qui dit des facéties, tu sais, puis qui en enregistre. Et puis, c'est tombé dans l'oreille de certaines personnes. Puis, à un moment donné, j'ai eu une proposition d'une radio commerciale de Montréal, qui est C'est quoi. Et je suis arrivé encore une fois par la porte de derrière, mais c'était pas planifié. Je me suis pas dit, quand j'étais petit, je serai humoriste. Je me suis pas dit ça. Alors, CKRL est responsable pas mal de ce cheminement-là.
Non, parce que moi, je disais aux gens, tu étais relativement gêné et timide.
Oui, je le suis encore.
Comme des grands clowns.
Oui, probablement. Moi, c'est comme à l'école, j'étais un peu rejet pendant certaines années, puis je m'exprimais par l'humour, et c'est comme ça qu'on m'appréciait.
Oui.
Sinon, j'étais rejet.
Ça évite d'être intimidé, oui.
Voilà, c'était ma façon de m'exprimer. Ça l'est toujours, ça n'a jamais changé. Denis, toi-même, tu me disais, mais tu dois exploiter ça. Je pense que j'exagère pas en disant que tu as été le premier à me parler de ça.
En plus.
Comme de quelque chose à exploiter.
Oh, c'est un radar de talent.
Voilà le radar du talent de Denis.
Comment il appelle ça, un chasseur de tête?
Voilà.
C'est ça, Denis, c'est un producer.
Oui, j'aurais aimé ça.
Ben, je propose qu'on écoute. Eh ben, déjà, première question, François. As-tu encore des archives de ton époque CKRL? As-tu gardé ça quelque part?
Écoute, malheureusement, je vais vous raconter, c'est une histoire bien plate. Dans un studio que j'ai eu dans le passé, un bâtiment, il y a eu une inondation dans un sous-sol où je gardais des bandes, des cassettes. Et il y a eu de la destruction. Maintenant, je vais vous faire une sorte de promesse, c'est de vérifier si je peux retrouver quelque chose d'encore audible des émissions que je faisais à l'époque, où j'animais en passant des tunes. Puis, c'est sûr que si je trouve ça, je pourrais vous envoyer un extrait, mais actuellement, je pense que j'ai tout perdu, malheureusement, wow. à cause de cette catastrophe.
Wow.
Mais, une catastrophe. En fait, j'ai pas mis mes bandes au bon endroit. Écoutez, j'ai utilisé un coffre d'outils, puis j'ai mis mes cassettes dedans. Puis, c'était des cassettes où j'enregistrais mes émissions à la radio communautaire. Et puis, c'est pas la seule chose que j'ai perdue, mais les premiers 6 mois de ma carrière professionnelle enregistrés en studio ont été perdus aussi.
Oui, c'est un peu le problème de ces archives matérielles, évidemment, ouais, c'est que ouais. Ce genre d'événement détruit tout. Avec le numérique, on peut perdre aussi, hein, mais bon. Mais écoute, ouais. L'archive que moi j'ai de toi, c'est ce fameux Radioton 1993, où on t'invite donc encore à venir à la station animer une émission, puis t'avais même des commanditaires, ou c'était des faux commanditaires?
C'était des faux commentaires.
Voilà. C'est bien ce qui me semblait. On écoute ça.
Le Poisson d'Avril est heureux de vous présenter François Pérusse.
Et monsieur, je vous dis que la nouvelle console à CKRL a quasiment autant de boutons que j'en avais quand j'ai commencé dans cette station-ci. C'est François Pérusse qui vous parle. Et l'objectif du Radioton, c'est 35 000. Et on est sur une bonne voie, mais évidemment, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut bien que je vous achale un petit peu. Il faut appeler au 640-2575, car j'ai vu les nouvelles installations, puis on a besoin de votre téléphone. D'ailleurs, je vais acheter ma carte de membre à l'instant. Parlant d'argent, peut-être qu'on pourrait parler aussi un petit peu de magasinage.
Avec les froids qui ont sévi dans les derniers temps, il est tentant de se faire installer un foyer dans la maison si on n'en a pas. Mais encore faut-il le magasiner.
Les foyers You Get What You See, vous avez ce que vous foyez?
Ouais, fais poser le foyer chez nous, là.
D'accord, vous voulez le foyer préfabriqué ou le foyer de maçonnerie?
Quoi, t'as-tu un foyer après ta sonnerie, toi?
Non, je veux dire.
Oui,
que...
quand on sonne chez vous, il doit pas avoir frais tombé. Pas besoin de gants.
Le foyer de maçonnerie, c'est.
Es-tu plus cher que le préfabriqué, lui?
Oui.
Bon, mais parle-moi donc de l'eau.
Bon, le préfabriqué, il y a un boîtier en métal, puis il y a 2 entrées d'air.
Ça marche-tu bien?
Ouais, c'est juste que quand vous en servez pas, c'est mieux de fermer votre trappe.
Bon, puis quand on s'en sert, on peut-tu parler?
Je vais vous dire, monsieur, c'est parce que moi, je suis pas vendeur, hein, puis la femme du département du foyer, de ce temps-ci, elle disparaît de plus en plus. Hein, comme là, je sais pas où qu'elle est, là.
Elle travaille-tu encore chez vous?
Oui, mais elle travaille beaucoup à l'extérieur, ouais, c'est pas
bien. Hey, bye.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il dit que de ce temps-ci, la femme au foyer disparaît de plus en plus parce qu'elle s'en va travailler à l'extérieur.
Ça, c'est vrai, ça. Il y a plus d'hommes au foyer que les femmes travaillent.
Ah, ben, regarde, Skidou Bombardier qui fait ses statiques.
Denise Bombardier.
Un cerveau,
c'est des statistiques.
Ouais, toi, puis matière grise, là.
Matière grise.
C'est ça que j'ai dit.
Cheminée Laval?
Ouais, faire poser le foyer que tu te le quittes, là.
Est-ce que c'est pour la chaleur ou c'est surtout pour l'agrément?
Je veux tout l'agrément pour avoir la chaleur.
Bon, les tuyaux de cheminée qu'on pose, nous autres, ont des diamètres de 7 pouces jusqu'à 15 pouces, là. Ça dépend de vous autres, là.
Ben, moi, je sais pas, mais toi, qu'est-ce que
un tuyau de 9 pouces, habituellement, ça se nettoie bien, puis c'est efficace. Ça dépend si vous avez beaucoup de créosate.
J'en ai pas de ça, là.
C'est-à-dire, quand vous allez avoir une cheminée, vous allez en avoir. Là.
Ça dépend combien ça coûte, ça.
Le créosate, ça coûte rien. C'est que ça coûte quelque chose de l'enlever.
Ouais, rien qu'à pas le poser.
Non. Le créosate, c'est une saleté qui se dépose dans vos tuyaux, là, à force de faire brûler du bois. Surtout si vous faites brûler du bois peinturé, là.
Ouais, de valeur, ça. Moi qui aime tant peinturer mes bûches avant de les mettre dans le feu, moi.
Mais on a un modèle de foyer avec un petit contenant, là, prévu pour ramasser la saleté, là.
Non, c'est parfait, ça. Mona, elle aime ça propre, elle.
Bon, mais dites-lui à votre épouse, là, qu'il y a le petit contenant pour ramasser la suie, là.
Mona!
Quoi?
Retourne-toi pas, là, mais le petit contenant pour ramasser te suit.
Hein?
On n'a pas compris ni l'un ni l'autre, monsieur.
Bon.
Comment qu'on fait pour aller chez vous, là?
Ah bon, c'est-à-dire qu'ici, à Laval, c'est juste les cheminées, hein? Les foyers sont à bois brillant.
C'est des foyers à bois brillant.
Ouais.
Et tantôt, tu voulais que je peinture mes bûches, là, tu veux que je les mette du verratane? Salut! Un beau petit niaiseux.
François, avais-tu réentendu ce sketch?
Ah, ça fait très longtemps que je l'avais entendu. J'ai la surprise d'entendre... je me souvenais plus des blagues. Et puis, d'autant plus qu'aujourd'hui... C'est rare qu'on téléphone pour magasiner quelque chose.
Ouais, ça a vieilli, c'est certain. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'entendre, François. Est-ce que c'était des sketchs exclusifs pour le Radioton ou tu ressortais peut-être des archives, je sais pas?
J'avais fait une fois, dans un Radioton, un sketch spécialement pour CKRL. Mais là, ce qu'on avait entendu, c'était un extrait d'album.
Ah, ben oui.
Je crois que c'est un extrait d'album, oui. Ouais. Mais oui, j'avais déjà fait un sketch... Et d'ailleurs, quand vous me demandiez tantôt, as-tu encore des archives, j'ai juste hâte de vérifier.
Bon, en raccrochant, ça va être ça. François, quel souvenir tu gardes du Radioton? Parce que, mine de rien, en faisant ces émissions, tu t'en faisais ambassadeur, comme bon nombre des animateurs et animatrices qui sont présents pendant le Radioton. Toi, c'est quoi le souvenir que tu en gardes?
Je me souviens que j'avais convaincu mes amis des Bleus Poudres, à un moment donné, de m'accompagner pour un des Radiotons. Qui était, mon Dieu, c'était-tu en 93 aussi?
Non, ça, je me semble, c'est en 2000, au Saint-Laurent. Je les vois passer,
au Saint-Laurent. Oui, exactement. Et puis, c'est ça que c'est allé avec les Bleu Poudres, puis on en a eu bien du plaisir. Puis les autres, ils n'en revenaient pas de la... En fait, de l'ampleur de cette station-là, parce qu'on s'attend toujours à une radio communautaire. On imagine toujours que c'est plus petit, mais CKRL, ça a toujours de l'ampleur, ça a toujours eu une bonne écoute. C'est très, très, très présent dans la culture québécoise. Puis je me souviens que les gars, ben, on a eu bien du plaisir, puis il avait été très impressionné par la grandeur de la station.
Wow. Ben, c'est ça, c'est une occasion, je pense, que tu nous rappelles, avec le recul, l'importance de ce qu'on appelle les radios alternatives, radios communautaires, l'importance de ça aujourd'hui, l'importance que ça perdure.
Oui. L'importance, absolument, parce que c'est là qu'on entend ce qu'on ne peut pas entendre ailleurs. Et évidemment, les radios aujourd'hui doivent suivre un schéma très, 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 très fabriqué d'avance. À un moment donné, on veut des revenus, on veut des performances et tout ça.
Formaté, quoi.
Non, oui, oui. Ouais. Et puis, on peut pas tout dire dans la plupart des radios, alors que dans la radio communautaire, il y a une liberté d'expression, je pense, supplémentaire. Il y a des sujets qui sont traités, qui ne sont pas traités ailleurs. Et il y a surtout, en ce qui me concerne, moi qui suis un fou de la musique, il y a surtout de la musique qu'on entend qu'on ne peut pas entendre ailleurs. Et puis, c'est d'une importance capitale. La radio communautaire, qu'on appelle en France la radio associative, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On ne peut pas vivre si nos ondes ne nous présentent pas ce type de diffusion-là.
Mais es-tu agréablement surpris de voir que cette station-là ait duré 50 ans? Parce que quand tu arrives en 76, elle n'a que 3 ans.
Et en plus, elle est propriétaire d'un immeuble, je pense, c'est la seule radio communautaire de qui on peut dire ça. 50 ans, quand ça a commencé en 73-74, mm-hmm. J'aurais jamais pensé que l'histoire irait si loin. C'est absolument phénoménal. Ça veut dire qu'il va y avoir un autre 50 ans, c'est sûr.
François Pérusse, un immense merci d'avoir encore une fois partagé ces souvenirs avec nous. Je pense que quand même ici à Limoilou, là, on t'attend de pied ferme pour un retour, pour qui sait, une émission spéciale Radioton ou non. Tu sais que les portes te sont grandes ouvertes.
Ou un petit 2 heures de jazz.
Un petit 2 heures de jazz avec Denis, ça commencerait bien la chose.
Oui.
Comme ça, je pourrais arrêter de faire mes rêves récurrents qui deviendraient réalité.
Tout à fait.
Denis a toujours ses 10.
50 ans de CKRL. Animé par Denis Lelièvre, Jessica Leb et à la recherche Roger Tédrolet.
50 ans de radio vous a été présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable à Capitale Nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale. Député fédéral de Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Et le ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos.
Nous sommes en 1917. Première guerre mondiale, révolution russe. Moscou est le noyau de grands bouleversements sociaux. À huis clos, Nina, Treplev et Trigorine, un triangle amoureux figé dans le temps, espèrent un avenir meilleur. Dans une mise en scène mêlant le concert, le théâtre et l'art vidéo à grand déploiement, retrouvez les protagonistes de La Mouette de Tchekhov 15 ans plus tard. Nina ou de la fragilité des mouettes empaillées, au théâtre Périscope du 9 au 27 avril, une production de La Tralée et de Carte Blanche. Billets en vente maintenant.
Participez à l'événement radiophonique incontournable de l'année, le Radioton de CKRL. Pour cette occasion spéciale, la station se transformera en véritable cabaret du 26 au 28 avril. Ne manquez pas ça.
Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale. Julie Vignola, député fédéral Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec.
Place au théâtre à l'Anglicane. Le 3 mai, voyez la pièce Le Nœud, traitant d'un sujet bouleversant et abordé avec finesse.
J'ai fixé le rendez-vous avec Carole, je pense. Je l'ai appelée vendredi après-midi.
À quel sujet?
Au sujet de mon fils.
C'est qui votre fils?
Grégory.
Le 16 mai, soyez émus par Maurice, une pièce abordant l'aphasie et teintée d'humour.
Un voyage, là, loin, bye, tout le monde, bye.
Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca.
Et si le principe de la cohérence cardiaque s'appliquait à votre organisation? Et si le cœur de celle-ci se synchronisait parfaitement à vos valeurs? Chez Perseus, tout est une question de cohésion. Notre équipe s'assure que votre organisation soit dotée d'une stratégie solide et fidèle à vos valeurs, pour ensuite établir les différentes tactiques afin d'atteindre vos objectifs. Plan de communication, outils technologiques, images de marque, sites web, médias sociaux, promotion, développement stratégique et tactique. Travaillons ensemble pour renforcer la base de votre organisation et devenez maître de votre réussite. Perseus. Accompagner, développer, communiquer. PerseusTactique.com ou parlez à un humain au 581-781-1333.